Il est 9h sur France Culture. Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Algérie, les étudiants appellent déjà à manifester aujourd'hui avant une plus large mobilisation jeudi et vendredi contre le président Abdelaziz Bouteflika. Celui qui est au pouvoir depuis 20 ans, affaibli par un AVC depuis 2013, a renoncé hier à briguer un cinquième mandat. Mais l'élection présidentielle, initialement prévue le 18 avril, est par ailleurs reportée sine die. Bonjour Marie-Pierre Véro.
Bonjour Catherine.
Abdelaziz Bouteflika répond donc à 3 semaines de contestation en promettant une fois de plus des changements, des réformes, une nouvelle constitution soumise à référendum avant de quitter le pouvoir. Mais ses opposants estiment que le raïs n'annonce son départ que pour mieux rester, Marie-Pierre.
Oui, c'est un peu le sentiment de la rue algérienne qui a certes forcé le président Bouteflika à renoncer à un cinquième mandat, mais le voit prolonger son quatrième, ce qui déjà est inconstitutionnel, le temps d'organiser une incertaine transition. La promesse de la mise en place d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer une nouvelle constitution n'est pas neuve. Et surtout, cela ne répond pas à la demande, celle de voir le pouvoir changer véritablement de main. C'est ce que répète ce matin Ali Benflis, l'ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, devenu opposant, était chez nos confrères de France Info.
C'est une victoire du peuple algérien, mais en demi-teinte. Une victoire au goût d'inachevé. On veut faire croire au bon pacha et au mauvais vizir. Vous savez, le pays est géré par la fraude électorale, la fraude de toutes sortes, et également par la ruse. Nous vivons le paradoxe d'un pays au bord de l'implosion et de l'autre l'espoir de voir enfin la lumière du jour. Avec d'un côté, des pyromanes prêts à mettre le feu au pays pour assurer la survie d'un régime condamné, et de l'autre, un peuple qui a décidé de reprendre son destin en main. Le divorce entre le pouvoir politique en place et le peuple est définitivement consommé.
Et d'ailleurs, vous le rappeliez Catherine, les appels à se mobiliser de nouveau n'ont pas tardé à fleurir. Reste à trouver une figure qui fédère l'opposition et assure une transition pacifique. Car pour l'heure, le changement cosmétique de Premier ministre n'est pas de nature à apaiser la colère. Pour beaucoup, ce matin, tout ne fait que commencer. La véritable épreuve de force est à venir.
Abdelaziz Bouteflika, une vie au pouvoir. C'est un portrait à retrouver en une sur franceculture.fr. En France, l'État conservera à peu près 20% du groupe ADP Aéroport de Paris. C'est ce qu'assure ce matin le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui réfute le terme de privatisation. Alors que la question est de retour devant l'Assemblée cette semaine, dans le cadre de la loi Pacte, une privatisation d'ADP dénoncée par l'opposition et par le Sénat pour des questions de sécurité et de souveraineté. Le Sénat, majoritairement à droite, qui s'apprête à voter aujourd'hui la loi dite anti-casseurs aux grandes dames de la gauche et de 50 députés de la majorité qui s'étaient abstenus de voter le texte le mois dernier. Il n'y aura donc pas de seconde lecture à l'Assemblée. Interdiction préventive de manifester, fouille, délit de dissimulation du visage. L'histoire n'est pas terminée pour autant. Des recours au Conseil constitutionnel sont en préparation, y compris de la part d'Emmanuel Macron, ce qui pourrait conduire à l'annulation de certaines mesures. Du traitement de la crise migratoire à la gestion des gilets jaunes en passant par la question antiterroriste. La répression se renforce en France. C'est ce qu'estime le défenseur des droits Jacques Toubon dans son rapport annuel publié ce matin. Jacques Toubon s'inquiète, je cite, d'un affaiblissement des libertés inspiré par l'état d'urgence de 2015. À 17 jours de la date prévue du Brexit, un nouveau vote crucial pour Theresa May au Parlement britannique. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura-t-elle bien lieu le 29 mars prochain comme prévu? Le Brexit se fera-t-il avec ou sans accord ou bien sera-t-il reporté? La première ministre a tenté de lever les doutes chez les députés en annonçant hier soir de nouveaux engagements de la part de Bruxelles, notamment pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre les deux Irlandes après le Brexit. Arrêtons-nous à présent sur un anniversaire. Le web fête ses 30 ans avec près de 4 milliards d'utilisateurs pour souffler ses bougies. Ce matin, l'inventeur du web, le britannique Tim Berners-Lee, se rend au siège du CERN à Genève pour fêter l'événement sur les lieux de son invention. C'était donc il y a 30 ans tout pile, le 12 mars 1989. Alors jeune trentenaire, il propose à son chef de mettre en place un système de gestion de l'information qu'il baptisera World Wide Web, abrégé en 3W. Vague mais prometteur, lui répond alors son patron. Maxime Tellier, vous nous racontez cette invention.
En 1989, Internet existe depuis près de 20 ans, du moins son ancêtre, ARPANET, créé par l'armée américaine pour échanger des informations entre scientifiques aux quatre coins des États-Unis via des ordinateurs connectés. Internet, c'est l'infrastructure physique, les câbles, les ordinateurs, les serveurs qui transportent les données, le système d'adresse aussi qui permet à ces informations d'arriver au bon destinataire. Le web, c'est différent, c'est une application qui utilise Internet. Son inventeur Tim Berners-Lee travaille alors pour le CERN en 1989, le laboratoire européen de recherche nucléaire à la frontière franco-suisse, et il doit mettre en place une base de données. Lui a l'idée de créer un système de partage à distance de ces informations et il innove avec trois idées nouvelles. Il crée d'abord un protocole universel d'échange de données qu'il appelle HTTP, un système d'adresse universelle aussi qu'il appelle URL, et un langage universel encore qu'il nomme HTML. Il crée en fait un espace commun avec un langage commun qui permet à n'importe quel ordinateur et à n'importe quel utilisateur d'accéder aux données, qu'il s'agisse de texte, d'image ou de son, alors qu'avant chaque ordinateur avait son propre langage ou presque. Il a ensuite fallu quelques années pour que le web démarre véritablement. Des navigateurs comme Mosaic, Netscape, puis Internet Explorer ont été des étapes importantes afin d'accéder à toutes ces données. Puis la création des moteur de recherche en 1998, c'était le lancement de Google. Aujourd'hui, le web existe toujours et il a changé pour de bon nos sociétés.
Il y a 30 ans, l'invention du web sans tambour ni trompette, c'est aussi un article à lire sur franceculture.fr. Le temps de ce mardi 12 mars, venteux, partagé entre nuages et éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera entre 10 et 22 degrés du nord au sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.